journal Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, l'espoir de fixer enfin le feu pour les pompiers du Var. Plus de 3 jours qu'ils tentent d'éteindre un incendie imprévisible qui a déjà ravagé plus de 6000 hectares. Nous serons au cœur du centre de commandement des pompiers dans un instant. À la une également, sécurité renforcée autour des centres de vaccination en Haute-Garonne. Après la destruction de 3500 doses de vaccins anti-Covid près de Toulouse lundi, la préfecture prend des mesures. Nous irons en Afghanistan où les évacuations se poursuivent, notamment vers la France, et où les talibans imposent peu à peu leur loi autoritaire. Et dans 20 minutes, Hélène, l'accueil des réfugiés au menu des discussions avec vos invités.
Oui, Martine Aubry, la maire de Lille, ouvre grand ses portes. Elle nous dira comment et pourquoi. Et puis avec Didier Lesky, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, on fera un état des lieux, on essaiera tout au moins, un état des lieux de la politique d'asile en France et en Europe. On attend vos questions, vos appels, chers auditeurs. Vous connaissez le numéro 01 45 24 7000.
5 jours après le séisme, près de 2200 morts en Haïti selon le dernier bilan, et l'éternelle reconstruction pour ceux qui avaient déjà perdu leur maison lors de l'ouragan Matthew. Et puis ils s'appellent Christian, André ou Catherine et ils partent en vacances cet été grâce aux petits frères des pauvres. Grand bol d'air en mer du Nord à la fin de ce journal.
France Inter.
Pas de pluie à l'horizon. Dans le Var, elle serait pourtant la bienvenue pour aider les pompiers à fixer et éteindre l'incendie violent qui a ravagé 6300 hectares depuis lundi, selon les pompiers du département. Hier, 2 personnes sont mortes, retrouvées dans une maison de Grimaud, touchée par les flammes. Encore plus de 1000 pompiers mobilisés ce matin. Et Nina Valette, vous êtes au cœur du centre de commandement au Luc, où se côtoient la fatigue et l'espoir.
Et depuis quelques minutes, les pompiers qui ont passé la nuit sur le terrain arrivent, comme Mohamed, le visage marqué forcément par la fatigue. Il vient des Bouches-du-Rhône avec ses collègues.
On va essayer de boire un bon café, parce qu'hier on a eu une journée assez chargée, donc c'était assez compliqué. Et on a eu une nuit quand même assez calme. Et là, ce matin, on va essayer de recharger un peu les batteries et on attend la relève.
Une nuit plus calme. Ici, c'est la vie générale. Le commandant Florent Dossetti, le porte-parole des sapeurs-pompiers du Var, explique les raisons.
Grâce à la tombée du vent depuis hier soir, la baisse des températures, qui est un élément significatif pour nous également, et la remontée du taux d'humidité dans l'air, comme on peut encore le sentir à l'heure actuelle, et encore de l'humidité dans l'air, ce qui est plutôt favorable pour nous. Donc ça facilite notre action au niveau du terrain. On peut présager que la nuit a été efficace en attente des reconnaissances aériennes.
Une reconnaissance aérienne qui devrait démarrer donc ce matin. En attendant, un hélicoptère bombardier d'eau est déjà dans les airs depuis une heure, renforcé dès maintenant là à partir de 8 heures par 2 Canadair. Au Luc, Hélène Langlois, Nina Valette, France Inter.
Le vent qui se calme, donc une bonne nouvelle, parce que c'est ça qui rend le feu si difficile à combattre pour les pompiers depuis lundi. Les rafales de vent ont provoqué des accélérations brutales des flammes. C'est ce qu'on appelle des brandons. François Pimon est chercheur à l'INRAE, spécialiste de la propagation des feux. Il nous explique ce que sont ces brandons.
Dans une zone en combustion, il y a des forces vers le haut liées à la puissance du panache et de ces gaz chauds qui montent, qui peuvent arracher des bouts d'écorce ou des bouts de végétation enflammée qui ensuite se déplacent dans le panache pour retomber quelques dizaines, centaines, milliers de mètres plus loin. Et si ces morceaux sont encore incandescents et qu'ils arrivent dans une zone un peu sèche, et ben ça fait un nouveau foyer. Et ces phénomènes de brandons enflammés induisent des propagations qui peuvent accélérer et sauter des zones hétérogènes non combustibles, comme des zones de coupure ou des routes ou des zones agricoles, et conduire du coup à des feux pouvant se déplacer à plus de 3-4 km/h avec des pointes à 6 km/h grâce à ces sautes de feu.
François Pimon, chercheur à l'INRAE, joint par Sophie Bécherel. Et si le feu n'est pas fixé, on le disait, dans le Var, c'est en revanche le cas dans l'Aude, l'Hérault et le Vaucluse ce matin.
8h04 sur le front du Covid, situation toujours critique aux Antilles.
Tous les lits de réanimation sont pleins en Guadeloupe et en Martinique. Une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochaines heures. Et dans le sens inverse, de nouveaux renforts de soignants vont partir demain vers les Antilles, où la situation sanitaire semble provoquer enfin un attrait pour la vaccination. Le rythme des primo-injections s'est accéléré ces derniers jours. Les vaccins, voilà qu'il faut maintenant les protéger en France. Lundi, un centre de vaccination près de Toulouse a été vandalisé. 3500 doses ont été détruites. Toulouse, où il y a 10 jours, des soignants ont été menacés de mort par des militants anti-vax. Alors la préfecture de Haute-Garonne a décidé de renforcer la sécurité autour de ces centres. Denis Aulagnon est secrétaire général de la préfecture.
Des consignes ont été effectivement passées aux forces de gendarmerie comme aux forces de police, et également un message aux communes qui accueillent des centres de vaccination, de manière à ce que le niveau de sécurité soit rehaussé et qu'une vigilance accrue soit portée aux centres de vaccination qui constituent des points sensibles, on l'a vu, au cours de ces derniers temps. Pas un vigile devant chaque centre de vaccination, mais des passages répétés. Une coordination avec les polices municipales de manière à démultiplier la vigilance. Et une attention aussi sur la sécurité passive dans ces sites qui sont des sites sensibles.
Un propos recueilli par Jeanne-Marie Marcot, France Bleu Occitanie. Aux États-Unis, ce sera troisième dose pour tout le monde à partir du 20 septembre, annonce de Joe Biden hier soir. Une campagne de rappel, et ce malgré les critiques de l'Organisation mondiale de la santé qui appelle les pays riches à ne pas faire de troisième dose pour l'instant, mais à partager plus les vaccins avec les États les moins favorisés, notamment en Afrique, où certains pays se préparent d'ailleurs à produire eux-mêmes des vaccins, comme le Sénégal du président Macky Sall.
Nous avons aussi dit qu'il faut que l'Afrique puisse produire les vaccins. Si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants.
Déclaration en juin dernier lors de la visite du président sénégalais à Paris. Toute cette semaine, France Inter vous parle des grands enjeux internationaux des mois à venir. La production de vaccins au Sénégal. Où en est-on, Nathanaël Charbonnier ?
Cela fait des mois et des mois que le Sénégal se mobilise pour accueillir une usine de fabrication de vaccins sur son territoire. Le coup d'accélérateur a eu lieu le mois dernier avec la signature d'un accord pour la construction d'une usine de production. À terme, elle devrait être capable de produire 25 millions de doses par mois, et ce, dès l'année prochaine. L'initiative est soutenue par l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis. Il faut dire que l'enjeu est énorme. Actuellement, 1% seulement de la population est vaccinée contre le coronavirus sur le continent, avec des vaccins qui proviennent à 99% de l'extérieur de l'Afrique, ce qui implique une dépendance totale au reste du monde. Et si le Sénégal s'est lancé dans l'aventure, ce n'est pas par hasard. Il peut en effet compter sur l'Institut Pasteur de Dakar, dont le savoir-faire n'est plus à prouver en matière de lutte contre les maladies infectieuses, avec notamment une action reconnue en matière de vaccination contre la fièvre jaune. Enfin, cette production africaine de vaccins devrait permettre non seulement de vacciner un plus grand nombre de personnes, mais surtout à un prix abordable pour les États les plus pauvres.
Nathanaël Charbonnier, le soulagement pour les rapatriés d'Afghanistan. Les premiers Afghans mis en sécurité par la France sont arrivés hier à Roissy, tandis que les rotations se poursuivent sur le pont aérien entre Kaboul et Abu Dhabi. Il reste des dizaines de Français et d'Afghans à évacuer dans des conditions plus que difficiles. On apprend ce matin que 12 personnes sont mortes depuis dimanche à l'aéroport de Kaboul. C'est ce que disent l'OTAN et les talibans. Ce matin, les talibans qui installent durement leur pouvoir, et ça inquiète ceux qui attendent d'être évacués, comme ce franco-afghan joint par Valérie Crova.
Hier soir, je voulais prendre une photo. Un taliban a pris violemment mon téléphone, il a cassé devant les enfants. Et ma petite fille qui a 3 ans, elle était un peu choquée. Tout le monde était choqué, et elle un peu plus. Ça, c'était juste devant la porte de l'aéroport. Donc, en dehors de l'aéroport, donc la ville est un peu paisible, c'est calme. On voit pas beaucoup de talibans. On essaye de rentrer plus tôt vite possible parce qu'il y a l'incertitude qui règne. Et là, on est pris en piège. Actuellement, chez mes parents, il y a plus de 60 personnes. Ma tante, ma belle-mère, tout ça, qui sont venus de Mazar-e-Sharif, la première ville qui est tombée. Moi, je m'inquiète plus pour mes nièces. Quand ils sortent, ils portent une espèce de djellaba noire. Auparavant, c'était pas ça. J'ai une cousine qui était convoquée. Il était convoqué par son patron, qui est un nouveau patron. C'est un taliban maintenant, leur patron. Il a donné des consignes vestimentaires.
Un témoignage recueilli par Valérie Crova, l'Afghanistan. On en reparle sur Inter dans un quart d'heure avec les invités du grand entretien. La maire de Lille, Martine Aubry, et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky.
8h09 en Haïti, 2200 morts. C'est le dernier bilan publié ce matin après le séisme de samedi dernier.
Après un autre tremblement de terre, c'était en 2010, après l'ouragan Matthew, il y a 5 ans, cette nouvelle catastrophe fait beaucoup de victimes et elle a détruit 40 000 habitations qui sont donc à reconstruire, alors que dans certaines régions, les Haïtiens venaient à peine de remettre leur maison debout 5 ans après l'ouragan Matthew. Exemple à Camperin, commune quasiment rasée par le séisme. Reportage Boris Loumagne.
Reconstruire, encore reconstruire. Juste à côté des ruines de sa maison, Angelo reconstruit.
Il dit qu'on a perdu la maison sur le cyclone Mathieu et qu'ils ont fait le nécessaire, ils ont essayé de rebâtir, etc. et qu'ils ont reperdu la maison pendant le tremblement de terre. Là. J'ai perdu mon frère pendant le tremblement de terre ici.
Le sort s'acharne sur les habitants de Camperin. Route coupée, plus d'eau potable, des lignes électriques arrachées, encore une fois, comme après l'ouragan Mathieu.
Elle dit qu'elle a tout perdu, tout perdu.
Mais le plus impressionnant ici, ce sont toutes ces maisons à terre, comme celle de la voisine dans le Djello. Elle a 66 ans et elle dort désormais sous des abris de fortune.
Elle a perdu la maison pour le cyclone Mathieu. Elle a passé plus d'un an dans une tente dans ce coin-là, là-bas. Finalement, ses enfants ont fait une collecte ensemble et ils ont bâti une petite maison pour elle, celle qu'on a là maintenant, en béton, et elle l'a perdue encore.
Ici, avant l'ouragan, il y avait essentiellement des bâtiments en tôle. Ils ont été soufflés par Mathieu, alors les habitants ont reconstruit en dur. Les conséquences aujourd'hui sont dramatiques. Les murs et les toits de béton ont écrasé les victimes.
Boris Loumagne, on en parlait en ouverture de ce journal. L'été est marqué par les incendies partout dans le monde et par la sécheresse aussi. Résultat, les cours du blé poursuivent leur envolée à la Bourse de Paris. Le prix a augmenté de 30% depuis le début de l'année et la pénurie de pâtes alimentaires menace désormais. Philippe Lefebvre.
Alors il y a de multiples raisons à cette flambée des cours. Il y a tout d'abord des problèmes de quantité. Les gros producteurs mondiaux, le Canada, la Russie, ont souffert de la sécheresse et ont donc revu leurs prévisions de récolte à la baisse. Un peu plus de 72 millions de tonnes pour la seule Russie, alors que les prévisions étaient de l'ordre de 85 millions. En revanche, en France, si la quantité est bien là, eh bien c'est la qualité des grains qui pose problème. Là encore, à cause de la météo et notamment de la pluie, qui a contribué à réduire la taille des grains ou qui a fait germer certains épis non récoltés, rendant le blé impropre à la consommation. Résultat, les prix flambent. À la bourse de Chicago, par exemple, la référence mondiale pour les cours des matières premières, eh bien le blé est à son plus haut depuis 8 ans. Alors cette hausse ne devrait pas se ressentir sur le prix de votre baguette, sachant que le blé ne représente que 6% du prix total de ce que vous payez à votre boulanger. En revanche, sans parler de pénurie, des ruptures de stock ou des augmentations sensibles de prix pourraient être à prévoir prochainement au rayon des pâtes alimentaires, bien que la part du blé dans un kilo de pâtes n'est en moyenne que de 30 centimes.
Philippe Lefebvre du service économique de France Inter.
Pas sûr qu'on assiste à une photo de famille ce week-end à Poitiers.
Les journées d'été d'Europe Écologie, les Verts s'ouvrent aujourd'hui en forme de terrain de jeu pour les 5 candidats à la primaire écologiste pour la présidentielle. Même si en interne le mot a été passé, interdit de se tirer dans les pattes. Laurence Perron.
À Poitiers, chaque candidat a son apéro ou son pique-nique de ralliement militant. Yannick Jadot l'a joué bucolique sur l'île de Tison, dans les herbes fraîches. Axel, jeune militant jadiste, comme on dit dans le jargon écolo.
Qui est le candidat que les Français choisiraient en tant qu'écologiste et non pas qui est le candidat que choisirait le mouvement. Il faut une candidature, possiblement de victoire. Et c'est pour nous, Yannick, qui peut l'apporter.
Les piolistes, les partisans du maire de Grenoble, Éric Piolle, affichent une certaine sérénité. Leur candidat a battu la campagne tout l'été, c'est en train de payer, veut croire Nicolas, ingénieur de 36 ans.
J'y crois en Éric parce qu'il définit un arc humaniste, c'est la vraie gauche.
La consigne a manifestement été passée. On ne se tire pas dans les pattes. Cette militante rousseauiste a un nom prédestiné, Harmonie. Elle arbore, comme tous les soutiens de l'écoféministe Sandrine Rousseau, un foulard rouge à pois blancs.
Et ça rappelle Rosie la rifteuse aux États-Unis pendant la guerre. C'était les femmes qui sont allées travailler dans les usines d'armement et c'est devenu un symbole des femmes qui travaillent.
Si Sandrine Rousseau n'était pas désignée, vous ralliez le ou la candidate qui sera sortie ?
Oui, c'est notre famille, les écologistes. On fera campagne avec beaucoup d'énergie pour la personne qui sortira.
Delphine Bateau et Jean-Marc Governatori, les deux candidats extérieurs à Europe Écologie Les Verts, entrent en scène aujourd'hui. La question est de savoir s'ils seront autant portés sur l'harmonie que les trois autres prétendants.
Laurence Perron, enfin, si certains ont déjà les yeux rivés sur la rentrée, d'autres profitent à fond de leurs vacances, comme ces personnes accompagnées par les petits frères des pauvres. L'association propose l'été des séjours à la mer ou à la campagne pour les extraire ne serait-ce que quelques jours de la solitude. Reportage sur la côte d'Opale à Ouissant dans le Pas-de-Calais, Alice Cachaner.
Allez, on y va. Les valises à peine posées, une promenade le long de la plage s'impose pour cette petite bande de vacanciers, tous originaires de l'île et ses environs.
À vrai dire, les choses simples, c'est les plus belles.
Les vagues, les dunes, la brise marine. Derrière ses lunettes de soleil, Christian contemple le paysage en souriant.
C'est magnifique, la nature, les oiseaux.
Ça vous oxygène.
Oui, voilà, c'est ça.
parce que ma vie n'était pas belle.
Le but de ces vacances, c'est justement d'oublier son passé cabossé, oublier aussi un quotidien modeste rempli de solitude, nous raconte André dans son fauteuil roulant.
Je suis content d'être ici, parce qu'à la maison, je suis toujours au lit, et ici, ça y est, d'être une fois avec du monde. On est déçus quand on arrive au dernier jour, parce qu'après, c'est de nouveau le lit toute la journée.
En rentrant à la villa, les odeurs de cuisine embaument la salle à manger.
C'est quoi le menu ?
Bavette à l'échalote avec haricots plats à l'ail et pommes de terre grenaille. Faut du bonheur dans l'assiette.
Un moment de partage particulièrement important, souligne Audrey Diacre, c'est la responsable de la maison.
Les personnes ne se font plus à manger à la maison. Certains n'ont aussi pas les moyens de bien se nourrir. Et donc, en vacances, on les chouchoute un peu.
De jolies couleurs sur les joues, Catherine et son amie Jeanne-Rose profitent avec gourmandise de cette petite parenthèse estivale.
J'ai bu du cidre et je suis pompette, j'ai chaud.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers.
Et voilà, le travail, c'est la santé. En plein mois d'août, Hélène, vous et moi, on en est la preuve vivante. On est en pleine forme.
Mais bien sûr, toujours. Merci, le journal Kevin Dufraîche. La météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Stéphanie Fromentin, c'est un jour sans fin dans le ciel. Hein. Les jours suivent et se ressemblent.
Soleil radieux près de la Méditerranée, nuages garantis partout ailleurs, on ne change pas un été qui gagne. Dans le détail, sur le Languedoc-Roussillon et la région PACA, le soleil est donc généreux, toujours accompagné d'un peu de vent, 40-50 km par heure. Les nuages bien denses seront eux aussi très généreux, entre le centre, le nord et l'est, avec un vrai ressenti bien automnal sur la Bretagne, qui bénéficiera de quelques gouttes même ici ou là. On pourra peut-être profiter de quelques troué en Normandie, en Vendée, sur la côte atlantique, mais ça n'est pas la promesse d'une belle journée. Et puis entre le midi toulousain, le massif central et le nord des Alpes, on a une espèce de zone tampon avec des grisailles matinales, quelques belles éclaircies en cours d'après-midi qui se feront plus timides de l'Aquitaine jusqu'au Hauts-de-France. Et puis à noter que dans les Pyrénées, le beau temps du matin tourne à l'orage en première partie d'après-midi.
L'après-midi est un peu trop frais pour la saison.
Sauf dans le sud-est, évidemment, où les températures seront très estivales, 29-30 degrés. Au nord et sur la Nouvelle-Aquitaine, le ressenti est beaucoup moins estival. Il fera entre 22-23 degrés en général. Localement, 24 vers les plaines alsaciennes. Ça augmente doucement, 25-27 degrés en descendant vers le sud. Il fera 19 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Brest, 23 à Paris, Tours et Bordeaux, 24 degrés à Limoges, 25 à Clermont-Ferrand, 26 à Lyon, 28 à Nice et 29 à Perpignan.
Merci Stéphanie Fromentin. France Inter, 8h18, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere.
Huawei, Dubaï.
Wahdahu min Souria.
Sur France Inter.
C'est avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Au lendemain de la victoire des talibans, une question se pose. Faut-il les croire ?
Alors écoutons-les, hein, puisqu'ils ont donné une conférence de presse et que l'un de leurs leaders s'est même laissé interviewer par une femme journaliste. C'était mardi sur une chaîne privée afghane de télévision. D'abord et avant tout, les talibans veulent que le monde leur fasse confiance. Ils promettent un gouvernement islamique inclusif, ce qui signifie représentant toutes les factions et minorités ethniques du pays. Ils jurent vouloir respecter les droits des femmes, je cite, hein, et à travailler et à s'éduquer dans le cadre de la loi islamique. Ils ont par ailleurs amnistié tous les fonctionnaires, ainsi que ceux qui ont travaillé avec les pays de la coalition. Les soldats de l'armée régulière afghane ont été pardonnés, assurent-ils. Enfin, ils expliquent qu'ils ne voulaient pas entrer dans Kaboul. Non, non, non. C'est l'incompétence de l'administration précédente qui les y ont obligés. Enfin, ils veilleront à ne pas faire de l'Afghanistan un havre pour le djihadisme international et veilleront aussi à détruire les champs d'opium. C'est beau comme de l'antique.
Donc, il ne faut pas les croire.
Ben non, bien sûr. Qu'il ne faut pas croire ces fables qui, comme disait Charles Parks, quoi n'engage que ceux qui les écoutent. On a en plus une certaine expérience, hein, en 96, lorsqu'ils ont pris une première fois le pouvoir. Les talibans ont tout promis aussi. À l'époque, ils avaient déclaré une amnistie générale et demandé à tous les fonctionnaires de se présenter le lendemain au travail. Ils juraient que leurs militants armés n'étaient pas animés d'esprit de revanche, ni que le Mollah Omar n'avait de rancœur personnelle. Et bien, dans le même temps, ils ont arrêté l'ancien président Mohamed Najibullah, l'ont émasculé et ont accrocher son corps à un lampadaire. Par ailleurs, alors que la conférence de presse de Kaboul s'achevait, on apprenait qu'une manif se tenait à Jalalabad. Quelques centaines de personnes protestaient contre le remplacement du drapeau national afghan par celui des talibans. Eh bien, cette manifestation a été aussitôt réprimée et à balles réelles encore. Et selon plusieurs agences de presse, 2 à 3 personnes ont été tués.
Donc si je vous suis, Anthony, rien de ce qu'ils disent n'est à retenir.
Alors pas tout à fait. Une seule promesse peut être à la limite prise au sérieux, l'éradication des plantations de pavots à opium. Il faut savoir qu'à la fin des années 90, les talibans avaient anéanti toutes les cultures et le trafic. Cette fois-ci, ce sera peut-être plus compliqué parce qu'une part importante de leurs revenus provient du trafic d'opium. Pour le reste, comme disait Ségolène Royal cette fois, eh bien il faudra qu'ils fassent de la politique par la preuve. Les États-Unis ne s'y sont pas trompés. Près de 10 milliards de dollars d'avoirs afghans ont été gelés par les Américains en attendant ces fameuses preuves. Et de la même façon, l'Europe a suspendu le versement de plus d'un milliard d'euros attribués au pays au titre du développement. Or, les talibans ont besoin d'argent et vite. Le pays souffre d'une sécheresse exceptionnelle et près de 2 millions d'enfants afghans sont, selon l'ONU, en danger de malnutrition. Donc, ne prenons pas pour argent comptant ces discours à la Gandhi, mais prenons les talibans au mot. Continuons d'évacuer les Afghans en danger, conditionnons ne serait-ce que la reconnaissance internationale de ce régime à des actes et des faits.
Merci bien Anthony Bélanger, géopolitique. À demain, à suivre le grand entretien de la matinale, on reste ensemble.